bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, c'est la rentrée. J'espère que tous nos auditeurs ont passé de bonnes vacances. Bienvenue donc sur les ondes de Radio Grand Ciel pour l'émission Bonjour Jérusalem qui repart donc pour une nouvelle saison. Simon nous accompagne toujours en régie. Elisabeth Cougère reprend du service à mes côtés. Bonjour Elisabeth, comment allez-vous? Toujours partante pour poursuivre cette émission avec moi?
Avec plaisir. Bonjour Christine, tout va bien et les vacances se sont bien déroulées. Merci aussi pour le travail que vous faites afin que cette émission existe.
J'en bave.
Après cette absence, quelles sont donc les nouvelles que vous nous donnez de Jérusalem?
Élie, vous vous souvenez que nous avions suivi le feuilleton Crémisan? Pour rappel, une décision de la Haute Cour israélienne en juillet dernier avait validé la construction du mur de séparation dans la vallée. Puis celle-ci devait être coupée en deux. Le monastère et le couvent salésien resteraient du côté palestinien, tandis que 58 familles chrétiennes de la même vallée verraient leurs terres et leurs maisons passer du côté israélien du mur.
Ah oui, c'est ça, exactement. Mmh. Ce tracé de mur allait donc engendrer une situation illégale sur le terrain et surtout préjudiciable aux habitants de la vallée.
Eh bien voilà, la bataille judiciaire pour sauver cette vallée a repris, hélas. Le 7 août, la société Saint-Yves, Centre catholique pour les droits de l'homme, affirmait avoir présenté une nouvelle requête auprès de la Cour suprême israélienne. Elle y demandait que le ministère israélien de la Défense présente un tracé exact et entier du mur de séparation et que toutes les parties concernées pouvaient présenter à leur tour leurs objections avant que ne débute la construction de ce mur sur les fameuses propriétés privées.
Alors, construire le mur sans en dévoiler le tracé au préalable, mettant ainsi les habitants de la vallée devant le fait accompli. C'était tout à fait inacceptable.
Ben, tout à fait, oui, c'est bien pourquoi la société Saint-Yves demandait que l'armée israélienne dévoile le fameux tracé en entier du mur et s'abstiennent en attendant de toute construction.
Donc, on est toujours en attente de la décision de
cette cour. Eh oui, et comme on l'a bien compris, cette nouvelle requête intervient après la décision de la Haute Cour, début juillet, d'autoriser la construction du mur de séparation entre Israël et la Palestine dans cette vallée du Crémisan.
Alors, mais c'est, si je comprends bien, une décision qui contredit celle prise début avril par cette même cour qui était à ce moment-là en faveur des propriétaires chrétiens de la vallée.
Bah, tout à fait, puisque ce qui est plus grave encore, c'est qu'un beau matin, ce sont les bulldozers israéliens qui sont entrés en action pour poursuivre la construction du mur de séparation.
Alors, comment réagissent alors les habitants de Crémisan?
Vous imaginez qu'ils étaient très en colère, hein, car non seulement personne n'avait pris la peine de les prévenir, mais aussi les ouvriers, les bulldozers, ont ainsi déraciné, entre autres, une cinquantaine d'oliviers parmi les plus anciens de la vallée, dont certains ont quand même 1500 ans d'âge.
Oh là là.
C'est énorme, hein. Et bien c'est sûr, l'horreur. Toujours sous la même protection de l'armée israélienne.
Eh ben, c'est du joli tout ça.
Ouais,
hein.
C'est
donc,
triste même.
Dans ces conditions, quels peuvent être les moyens pour les habitants pour protester, pour essayer contrecarrer tout ça?
Ben, en fait, ils n'en ont pas beaucoup. Hein. Comme je vous l'ai dit, ils ont été mis devant le fait accompli. Ils n'ont pas beaucoup de moyens à leur disposition. Ils pensent simplement que c'est une action contre le passé et le futur des habitants de la vallée. D'autant plus qu'ils sont en colère, c'est parce que les oliviers abattus font partie de la vie de ces mêmes familles.
Mais absolument.
C'est
pratiquement des monuments, un arbre.
Ah ben,
de
oui,
cet
mais
âge-là.
C'est un patrimoine culturel et. Et important pour,
c'est vraiment,
pour ces
vraiment
familles.
Choquant. Ouais. Hein. Et ce genre d'action ne va pas servir la cause de la paix, certainement.
Ah, ben, ça, pas du tout. Hein, car on sait surtout la présence chrétienne sur ces terres, déjà réduite à peau de chagrin, qui se voit à nouveau menacée. En plus, les habitants de cette vallée déclarent que plusieurs d'entre eux sont allés manifester leur mécontentement auprès de ces ouvriers et des soldats qui étaient présents. Alors, le ton est monté et en fait, deux jeunes Palestiniens ont été légèrement blessés.
Ce contentieux judiciaire sur la vallée de Crémisan, qui oppose depuis 10 ans maintenant les autorités israéliennes aux familles de la région, dont les terres et les propriétés sont menacées par la construction du mur de séparation, se poursuit donc alors.
Ben oui.
Et alors que la Cour suprême avait donné raison aux familles de la vallée, alors
et
je
oui,
comprends
tout
pas.
À fait. Oui, c'est quelque chose, c'est un feuilleton, un rebondissement. Bon, c'est sûr que pour nos auditeurs, on va les tenir au courant parce que je pense qu'il y aura encore une suite.
Oui, il faudrait savoir parce que je comprends. Moi, je suis révoltée aussi pour les arbres.
Moi, ça me désole profondément.
Quand on voit quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont ni foi ni loi, ils ne respectent rien.
Absolument, mais gardons-nous de porter un jugement.
Bien, bon, c'est alors un, donc on va passer voilà. Une petite pause musicale voilà, en attendant déjà pour le revenir pour de nos émissions.
Nos regrets.
A song written after World War II. It celebrates survival, renewal, and the continuity that exists from generation to generation. Take to these aisles, start a line, ye them tanz, tanz, tanz. Ye them tanz, them be mission begun. Vergesst den euren Zürich in euren Saal. Tanz, them tanz, so glad and rock the song. The sun and rock so long. Ye them tanz, them be mission begun. Hoi, ki, dick, ye toy, and tanz, and go in here. Fürs Boden, ich weig, ich gib's auch scheuner dir. Weib Lust und Zuleik, du klack die Tanz, und reiß die Stunde. Schein kindet am Mund, ich geh jut dies Ruh. Gelitten von Sunny, das hast du schon immer zu. Nur zu mir die Sinn zu streben, alles zu leben, gut sing in der Schirr. Das schreit schon euch mit Mut und Feuer, kein ewig Leben hier. Wie kannst du den Himmel schön verbrennen? Vergesst in eure Zürich, in eure Schein. Tanzt im Tanz und Leben nach, ist alles an dem Ort zu rock. Das Tanz hat zu nehmen, wie mir schön.
Pause musicale, nous revoici sur les ondes de Radio Grand Ciel, toujours avec Simon à la technique et Christine qui et nous donne des nouvelles de Jérusalem. Alors en France, les vacances scolaires sont terminées depuis un petit moment déjà, puisqu'on n'est pas en avance dans notre année. Et depuis tout ça, depuis le début septembre. Mais alors, comment ça passait la rentrée des classes des enfants de Jérusalem ?
Eh bien, la rentrée en Israël des classes a plutôt été mouvementée. Voilà, après les vacances, avant les vacances d'été, il y avait une manifestation qui avait été organisée par le bureau des écoles chrétiennes devant les bureaux du ministère de l'Éducation à Jérusalem.
C'était à quel propos cette manifestation ?
Eh bien, en fait, elle ne proposait rien. Elle manifestait pour dénoncer la discrimination exercée après 8 mois de vaines négociations exercées par le ministère à l'encontre des écoles chrétiennes depuis 3 ans. Puisque rien n'avait été fait, même si un accord définitif avec l'État palestinien avait été signé avec le Saint-Siège concernant sa présence et son action en Palestine.
Et que disait cet accord, Christine ?
Alors, le ministère de l'Éducation affirmait son soutien à l'existence des écoles chrétiennes dans le pays et promettait également de trouver des solutions afin de résoudre cette crise budgétaire que connaissent les fameux établissements scolaires qui, maintenant, vont rester fermés jusqu'à nouvel ordre.
Et alors, pourquoi cette grève, alors que la rentrée était pourtant assez proche ?
Oui, mais justement, hein, en plus, c'était vraiment une manifestation très importante, puisque on sait qu'il y a eu des actes de vandalisme qui ont été perpétrés par un groupe de fondamentalistes juifs qui s'appelle Priesthag. D'ailleurs, j'avais parlé dans une autre émission, sans que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour les en empêcher, contre des monuments chrétiens et également contre les écoles chrétiennes qui sont maintenant, depuis 3 ans, la cible d'une politique discriminatoire de la part du ministère de l'Éducation, essayant progressivement d'arrêter les subventions qu'il continue à donner à 100% aux écoles qui accueillent les étudiants juifs. Donc vous voyez, il y a vraiment un réel problème de discrimination.
Alors je suppose que cela provoque bien entendu des conflits entre les communautés.
C'est pratiquement inévitable.
Ça n'arrange pas la paix. Hein.
Mais oui, en effet, entre les écoles chrétiennes qui y voient une seule explication, c'est-à-dire que le ministère essaie peu à peu de mettre la main sur les fameux établissements scolaires pour les faire entrer dans le moule des écoles de l'État.
Et cette crise est devenue plus grave pendant l'été, il me semble.
Oui, puisque le lundi 24 août à Jérusalem, le comité des négociations des écoles chrétiennes, qui était présidé par Monseigneur Marc Uzo, a rencontré le président israélien, M. Reuven Rivlin, ainsi que le ministère de l'Éducation, Naftali Bennett, et une délégation du ministère pour parler de la crise que traversent ces fameuses écoles chrétiennes en Israël.
Et que s'était dit à cet endroit-là et à cette occasion-là
chose, hein. Vous savez bien que les parlottes, ça existe aussi. Alors le président Rivlin, en ouvrant la rencontre, a salué le rôle de ces écoles chrétiennes en Israël, tout en soulignant l'importance de l'expérience pédagogique exceptionnelle qu'elles proposent depuis de très nombreuses années.
Alors, pourquoi cette grève de la part des écoles chrétiennes et tout ça jusqu'au Nouvel Ordre ?
Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement parce que le ministère de l'Éducation israélien propose que les écoles chrétiennes deviennent des écoles publiques, c'est-à-dire des écoles de l'État d'Israël.
Ah, d'accord.
Et là, ça pose un problème, effectivement.
Ben, je comprends. Hein? Cette proposition, elle a été bien vue par les propriétaires des écoles, des églises, monastères, etc. Ou pas. C'était bien vu, ça leur a plu.
Pas du tout. Mais alors, pas du tout, car cette proposition mettrait fin à l'entreprise éducative chrétienne basée sur les valeurs chrétiennes. Et ce serait comme un coup critique porté à la minorité chrétienne en Terre Sainte. Alors, à la lumière de tous ces événements, les écoles chrétiennes ont donc décidé de mettre fin à ces négociations.
Et alors, est-ce qu'une solution est quand même à envisager ou pas ?
Cela risque d'être très difficile car le bureau des écoles chrétiennes a décidé d'organiser une manifestation sans précédent devant le ministère de l'Éducation pour justement protester contre cette politique discriminatoire avec des slogans percutants comme par exemple « Nous ne demandons pas des miracles mais l'égalité, nous nous sentons forts car nous nous sommes bâtis sur le droit et la vérité » ou encore « Ne mettez pas les mains sur nos écoles chrétiennes qui ne sont pas à vendre ». Vous voyez que c'était assez
violent.
Oui.
Alors où en est-on maintenant ? La rentrée a eu lieu en septembre et la grève continue ?
Alors oui. Car le mardi 2 septembre, les écoles chrétiennes se sont mises en grève prolongée pour protester contre les restrictions budgétaires qui étaient imposées par le ministère de l'Éducation, notamment à Nazareth. Bon, j'ai dit oui, mais en fait, il faut dire oui, la grève continue, mais la rentrée n'a pas eu lieu.
Oui, je comprends.
On comprend comme ça.
Alors, Christine, peut-on penser que cela pourrait être une menace pour la présence chrétienne en Terre Sainte ?
On peut le penser, hein, bien sûr, puisque depuis plusieurs années, ce ministère de l'Éducation impose des restrictions budgétaires aux écoles dites reconnues mais non officielles, dont font partie les écoles chrétiennes, touchées d'ailleurs de plein fouet par ces mesures. Ce qu'il faut savoir, c'est que le financement de l'État s'élève depuis 2 ans à 34% contre 65% auparavant.
C'est vrai que c'est une baisse considérable.
C'est carrément la moitié. Alors cette baisse oblige dès lors toutes les familles à prendre en charge une grande partie des frais de scolarité, ce qui les met à mal, la situation de ces familles n'étant pas très aisée. Hein.
Alors effectivement,
nous comprenons
la mobilisation de ces personnes,
enseignants. C'est justifié.
Ça ne doit pas être facile.
Mais oui, parce que devant l'échec des négociations, donc menées avec un acharnement pendant des mois, le bureau des écoles chrétiennes n'a pas eu d'autre choix que d'appeler les établissements à une grève illimitée. Et ce, justement, à la veille de la rentrée.
Mmh. dommage pour les enfants. L'enjeu est de taille, car si les écoles chrétiennes sont aujourd'hui menacées à terme, ce serait la présence chrétienne en Terre Sainte qui serait menacée.
Oui, mais ça découle, hein, bien sûr, puisque il y a quand même 33 000 élèves, qu'ils soient chrétiens et musulmans, qui seront pénalisés par l'absence d'un même traitement que celui que reçoivent les autres écoles de l'État d'Israël.
Alors, il me vient une question, Christine. Y a-t-il une solidarité avec les autres écoles du pays ou...
Ah oui, tout à fait. Lors de la grande grève du 9 septembre, toutes les autres écoles arabes se sont unies en signe justement de solidarité. Mmh. Il y avait les écoles de Galilée et de Jérusalem et un slogan était sans cesse scandé. C'est un droit que nous demandons, non une aumône. Et si vous pensez que l'éducation est coûteuse, essayez alors l'ignorance.
Mmh. L'égalité des droits est en effet une priorité pour les enfants.
Bien sûr, c'est vraiment une priorité qui devrait être appliquée dans tous les pays du monde. Il ne faut pas oublier qu'en effet, 34% des étudiants arabes effectuant un cursus à l'université sont issus des écoles chrétiennes, alors que celles-ci ne représentent que 4% du secteur scolaire arabe.
Ah oui, d'accord. Alors donc, la mobilisation s'intensifie ?
Tout à fait, Elie, puisqu'en attendant, le mouvement fait, comme on dit, tache d'huile. Toutes les écoles arabes d'Israël qui regroupent près de 450 000 élèves ont annoncé à leur tour rejoindre le mouvement de grève en signe de solidarité avec les écoles chrétiennes.
Bon, alors nous allons peut-être faire une nouvelle pause musicale.
Ah, chouette.
Et nous reprendrons la vie des Jérusalemites après.
Hat der Rebbe mit uns geknallt. Oi, 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 freilich, Kinder, aus der Zoi, endlich fahren von alle Zeck, freilich von an Eck. Oi, Gott, ich bin der Narr im Jivel und es tat mir gut der Moi. Simches Teure, sing ich ein Lille, mach ein guter Geißer. Leben und Simches teure, wär's nicht freilich so galein.
Oi, 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 freilich, Kinder, was da soll, renn mit Fahnen von alle See, freilich von an Eck.
Sie ist freilich, wie wir die Gassin, sie ist freilich, wie wir die Stieb, teuer hat haste, wem ist genossen, Leben, so ist das Leben ist lieb.
Simches Teure von Gott am Tonne soll uns Tomit heilig sein. A viele die Scheren mit der Lewonne sein. Wir gehen ja trinken Wein.
Oi, 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 freilich Kinder hat der Säu. Renn mit Pfann von alle See, freilich von an Eck. Oi, 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 freilich Kinder hat der Säu. Renn mit Pfann von alle See, freilich von an Eck. Oi, 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 freilich Kinder hat der Säu. Renn mit Pfann von alle See.
Nous revoici le retour sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bonjour Jérusalem, toujours en compagnie d'Elisabeth et de Simon en régie.
Alors Christine, quelles sont les autres nouvelles en provenance de Jérusalem ?
Alors, il faut se rappeler avant tout que c'est grâce au patriarcat latin de Jérusalem et à ses journalistes que je voudrais rendre hommage, que d'ailleurs le magazine Terra Santa qui nous alimente en information, que cette émission existe. Donc voilà, après ce bref rappel, je voudrais vous parler du lancement d'une nouvelle association qui s'appelle les Cathéniens.
Alors qui sont les Cathéniens ?
C'est une association qui a été fondée à Manchester en Angleterre en 1908 par l'évêque Louis Casartelli, qui vient en aide aux jeunes dans les domaines académiques, professionnels et socio-religieux. Leur centre est aujourd'hui à Coventry et en fait ils s'étendent dans tout le monde anglophone. Leur devise, c'est « renforcer la vie de famille par l'amitié et l'entraide ».
Alors, c'est un bien bel engagement. Et d'où vient le terme « cathéna » ?
Alors, il vient
du... cadenas, non,
c'est non, pas ça. Non, non,
ah oui, c'est...
Non, non, il vient tout simplement du latin « cathena », ouais, qui veut dire « chaîne ».
Ah, c'est hein? Pas loin, pas loin. C'est pas très loin.
Qui indique donc un enchaînement très solide entre les membres, vous voyez, chaîne, hein, dans le temps, l'espace et les personnes.
D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est comme un groupe d'amis qui partagent le même engagement et vivent dans le même contexte et qui s'aident mutuellement et aident aussi les autres, surtout les jeunes et les familles.
Oui, tout à fait ça. C'est une vraie cohésion et une très forte coopération, effectivement.
Alors, parlez-nous un peu de leur engagement, Christine.
Eh bien, les Cathéniens s'engagent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aider les étudiants. C'est bien spécifique, hein, ce sont les étudiants qui sont visés à bien choisir leurs études, à s'inscrire à l'université et aussi à la recherche d'un logement. C'est vraiment leur apporter une aide concrète.
C'est formidable, ça.
Oui.
Vous aviez indiqué également que le domaine du travail était aussi l'un de leurs engagements.
Oui, bien sûr, pour aider les jeunes à trouver un travail qui correspond enfin à leur cursus universitaire, et aussi à connaître leurs droits et leurs devoirs de travailleurs, tout en leur proposant une base de déontologie du travail. C'est très important, je trouve.
Et le dernier secteur, Christine, alors ?
C'est le secteur socio-religieux, c'est-à-dire aider les jeunes à participer à la vie de la société, les encourager au volontariat et les aider à vivre les valeurs historiques, religieuses et artistiques du pays.
Et ben c'est bien de surveiller tout ça. Oui. Et vous disiez aussi, Christine, que les Cathéniens étaient totalement au service des jeunes.
Oui, c'est bien ce que je disais tout
important.
À l'heure. Parce que pour réaliser leurs objectifs, ils se basent sur leur solidarité et leur disponibilité de volontariat. Bien sûr, tout en faisant appel à des structures sociales qui existent déjà en Israël, comme Alfanar et Ryan. Donc, je ne connais pas trop cette association, mais ils travaillent, je pense, en étroite collaboration.
En tout cas, c'est une belle oui, initiative et une belle association pour les jeunes. Hein.
Je pense, oui, tout à fait. Hein. L'enthousiasme des jeunes répond toujours, effectivement, à une vraie nécessité.
Alors, d'autres bonnes nouvelles comme ça, c'est Christine ?
Oh ben oui, il y en a au moins trois. Il y a trois projets en 2015 qui ont été sélectionnés. Donc, je vais vous faire une brève description
de ces
projets.
Lesquels sont-ils ?
Alors, le premier, ça concerne la rénovation du monastère Jaffa de Nazareth, qui se trouve à quelques kilomètres seulement au nord de Nazareth, dans l'État d'Israël. Les travaux à réaliser d'ici les trois prochaines années prévoient l'augmentation du nombre de classes afin de permettre à l'école d'accueillir le niveau d'enseignement secondaire supérieur, l'école maternelle, la résidence du curé de la paroisse et la maison des religieuses seront par la suite déplacées dans un autre bâtiment. L'école et la maternelle accueillent actuellement 555 élèves.
Alors, et quel est le deuxième projet ?
Eh bien, c'est l'achèvement du rez-de-chaussée du centre de Notre-Dame de la Paix en Jordanie et la construction d'un centre culturel tout près d'Amman qui offre divers services aux personnes handicapées et qui propose son soutien à divers mouvements ecclésiaux en Jordanie. C'est-à-dire qu'une fois que le rez-de-chaussée du centre sera terminé, il y aura des bureaux, des salles de réunion qui seront disponibles et il y aura également un appartement pour les religieuses qui sont à demeure.
Ah oui, c'est bien
intéressant,
ça.
Hein.
Ça va être très très bien. Et alors le troisième, le dernier ?
Bon, c'est la dernière phase des travaux de la nouvelle église et du complexe de Marj à l'Amam, toujours en périphérie d'Amman. L'église qui pouvait jusqu'à présent accueillir jusqu'à 120 personnes, on prévoit que quand la nouvelle paroisse sera terminée, une capacité de 600 personnes.
Alors c'est une réelle augmentation, effectivement.
Oui.
Et alors après toutes ces bonnes nouvelles, Qu'est-ce que vous avez à nous raconter ?
J'en ai une autre qui est très, que j'apprécie et qui peut, il y aura peut-être une suite à y donner après. Bon, c'est un petit mot sur les icônes. Cet art byzantin qui est né en Terre Sainte. Il y a une école des icônes qui fait revivre un art authentique et qui remonte, lui, cet art au 4e et 5e siècle.
Alors, est-ce qu'il y a une école pour enseigner cet
et
art ?
Oui, il y a une école des icônes qui se trouve justement au cœur de la vieille ville de Bethléem et qui la distingue des autres écoles d'art de cette ville. Son objectif est de faire grandir chez les étudiants un esprit d'humilité qui dépasserait leur égoïsme.
Ah oui, l'égoïsme des jeunes, c'est connu, n'est-ce pas ? Non. Non, mais c'est très bien, voilà. Mais je suppose qu'il n'y a pas que cela, Christine. Il y a autre chose, peut-être ?
Ah oui, oui, bien sûr. Cette école, elle a aussi un autre objectif qui est de conduire les étudiants à former leur esprit et leur vie grâce aux divers éléments qui constituent une icône.
Alors, quels sont ces éléments dont vous parlez ?
Eh bien, justement, c'est le calme, le silence, la sérénité qui éloignent toute distraction.
Alors, on sait bien que l'art de l'icône ne se borne pas à l'iconographie dans son aspect technique.
Donc, pas du tout. Cet art tente effectivement de faire connaître aux étudiants les périodes historiques de la naissance de l'iconographie, son développement au cours des siècles. L'école des icônes à Bethléem est la seule au Moyen-Orient qui enseigne cet art ancien qui est né avec l'arrivée des moines du désert au 4e et 5e siècle. Pour ces moines, écrire des icônes était devenu un art sacré.
Et qui a fondé cette école des icônes à Bethléem ?
Alors, c'est en 2012 que cette école a été fondée, d'abord en tant qu'association à but non lucratif, sous le patronage de l'évêque Melkite de Jérusalem, Mgr Zerey, et c'est en 2014 qu'un Anglais, Ian Knowles, qui en a pris la direction tout en veillant à l'application de la réalisation de ses objectifs.
Ben, c'est très très intéressant tout ça et gageons que cette école accueillera de nouveaux étudiants intéressés à apprendre plus encore de tout ça. Voici venu donc le temps de nous quitter, Christine. Nous vous remercions et remercions aussi les auditeurs de nous avoir écoutés sur Radio Grand Ciel, radio qui rapproche les hommes. À bientôt. Au revoir, Christine.
Au revoir, Elisabeth. Merci.